La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier. La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.
Bonjour à toutes et à tous. Nous allons évoquer avec Pauline Metton la fruitière numérique, qui est un lieu qu'elle dirige depuis plusieurs années, qui est un équipement de proximité qu'on désigne souvent aujourd'hui comme tiers-lieu. Bonjour Pauline.
Bonjour Bertrand.
Alors le tiers-lieu, qu'est-ce que c'est que cette chose-là? On en parle beaucoup et on ne sait pas exactement ce que c'est. Il va falloir que vous nous décriviez ce que c'est un petit peu et que vous exposiez aussi les caractéristiques d'un tiers-lieu. Et puis peut-être aussi, dans un second temps, nous dire donc si la fruitière numérique est bien un tiers-lieu et surtout si c'est un tiers-lieu de catégorie culturelle. Voilà, ça fait beaucoup de choses à raconter pour démarrer, mais c'est à vous, Pauline.
D'accord, mais je vais essayer de me souvenir de tout. Je vous remercie pour cette invitation à parler des tiers-lieux. Donc effectivement, ça peut être bien de commencer par une petite définition. Donc le tiers-lieu, c'est un terme qui a été évoqué au début des années 90 pour parler d'environnements sociaux en fait qui étaient plus ou moins à cheval entre la maison et le bureau. Donc en fait l'idée d'un tiers-lieu, c'est un espace de travail dans lequel on se sentirait finalement comme à la maison et surtout un lieu dans lequel on va pouvoir rencontrer des gens qu'on ne rencontre ni chez nous ni au bureau. C'est pour ça qu'on les appelle tiers-lieux, ce sont parce qu'ils sont justement vraiment à cheval entre les deux environnements principaux que nous fréquentons, à savoir la maison et le bureau. Effectivement, nous, on se définit la fruitière numérique comme un tiers-lieu parce qu'elle répond très précisément à cette définition. On a vraiment à cœur que les gens qui fréquentent la fruitière se sentent finalement comme chez eux et puissent venir y travailler comme juste y boire un café ou avoir une petite jasette avec leur voisine ou un ami. Donc c'est un lieu qui par définition est ouvert à tous et qui va pouvoir proposer en fait plusieurs services à ses usagers. Donc la fruitière numérique est un tiers-lieu. Il est un tiers-lieu en milieu rural puisque nous sommes basés à Lourmarin. Et ça c'est une spécificité importante chez nous puisque les tiers-lieux qui sont en milieu plutôt rural en fait vont pas avoir vraiment la possibilité de se spécialiser. On entend beaucoup parler de tiers-lieux type coworking, les tiers-lieux type Fab Lab. En milieu rural en fait on peut pas avoir qu'un espace de coworking ou qu'un Fab Lab, ça va être plutôt des lieux hybrides qui vont proposer plusieurs services. Donc voilà, nous on répond un petit peu à tous ces critères, à la fois un lieu chaleureux, un lieu avec plusieurs services qui répondent à des besoins du territoire, ça c'est vraiment important et j'y reviendrai très certainement. Des profils d'usagers très divers selon les services, bien évidemment, et un travail de mise en relation en fait pour tisser du lien sur le territoire.
Merci. Il faut préciser évidemment, parce que c'est vrai qu'on avance dans l'entretien, Lourmarin c'est un village, je crois que c'est à peine plus de 1000 habitants.
Tout à fait.
C'est situé dans le département du Vaucluse, qui est un département assez rural dans l'ensemble.
Oui.
C'est une chose importante.
Oui.
Et c'est vrai que quand je vous entendais parler, Pauline, j'ai un peu fait des révisions avant de vous interroger. Il est dit dans les ouvrages un peu qui font l'historique des tiers-lieux que les tiers-lieux c'est un peu ascendant. Donc c'est un mouvement ascendant, c'est une volonté partagée, populaire, de créer un espace de convivialité avec différentes ressources à l'intérieur. La question évidemment concernant Lourmarin, le tiers-lieu de Lourmarin, la fruitière numérique, est-ce que il est possible que dans un village aussi petit que Lourmarin, l'idée d'un tiers-lieu émerge? Et si elle émerge, elle émerge d'où? Et il faut aussi rappeler la date de création du tiers-lieu, ça c'est de la fruitière, ça c'est important. Donc
oui.
La question c'est oui, la date de création de la fruitière et aussi la genèse de la création de la fruitière.
D'accord. Donc, pour vous faire assez court, en fait, en 1995, donc ça commence à remonter un petit peu, il y a la coopérative agricole du village qui a fermé. Cette coopérative, elle avait été rachetée par un particulier qui a décidé de la vendre en 2008. Et en fait, il faut savoir qu'elle est vraiment située à proximité du centre-ville, puisque vous traversez la départementale et vous êtes déjà dans le cœur du village. Donc, quand la mairie a su que ce patrimoine finalement agricole et culturel du village était en vente, elle a saisi l'occasion de racheter ce bâtiment sans savoir vraiment qu'est-ce qu'elle allait pouvoir y faire. C'est un bâtiment qui fait environ 3000 mètres carrés en comptant l'extérieur. Et donc, la première étape en fait de ce projet, ça a été la mise en place d'un marché de producteurs. Donc ça, c'était en 2011. Ce marché de producteurs, ça a été le premier marché de producteurs du territoire. J'entends par producteur de la production agricole en culture bio ou raisonnée. Donc vraiment des producteurs du territoire, vous l'avez dit, on est sur un territoire à majorité rurale, donc beaucoup de production agricole. Donc il y a eu cette première étape en fait dans le projet qui a vraiment permis aux Lourmarinois, donc aux habitants du village, de se saisir un petit peu de ce bâtiment ou en tout cas de se le réapproprier puisque beaucoup y avaient travaillé. Et de 2011 à 2015, donc date de la naissance de la fruitière numérique, il y a eu un comité de pilotage qui a travaillé pour savoir qu'est-ce qu'ils allaient pouvoir faire en fait de ce bâtiment qui était immense. Et l'idée a germé de ce tiers-lieu. Alors en 2015, on parlait pas encore véritablement de tiers-lieu. On parlait déjà de coworking, de Fab Lab, mais le mot tiers-lieu n'était pas encore vraiment utilisé. Et donc la fruitière numérique est née d'une volonté politique. Pourquoi une volonté politique? Parce que ça a représenté un investissement énorme et qu'une association en fait d'habitants ne pouvait pas porter en fait un tel projet. Et on a eu la chance à ce moment-là d'avoir un maire suffisamment visionnaire pour pouvoir implanter ce projet dans un petit village de 1000 habitants. Effectivement, c'était novateur. Et voilà, on existe depuis 2015. Et donc pourquoi ce projet-là dans ce village? En fait, le village de Lourmarin est un village qui est très touristique, avec une population malheureusement vieillissante. On le sait, beaucoup de villages en fait se meurent en France avec des départs. L'idée du maire, lorsqu'il a fait la fruitière numérique, il voulait une activité transverse, donc le numérique, mais aussi une activité qui puisse un peu pallier à ce problème de saisonnalité du village et qui puisse être aussi un facteur d'attraction sur le territoire pour faire venir en fait des nouveaux habitants, peut-être un petit peu plus jeunes, et pas repeupler mais redynamiser un petit peu le village, parce que l'idée c'est que ce village ne soit pas qu'un village touristique, qui soit vivant, on va caricaturer, qui soit vivant 6 mois de l'année et le reste du temps mort avec ses commerces fermés et les quelques habitants qui vivent à l'année qui n'ont finalement pas de proposition d'animation ni d'espace de rencontre. Donc la fruitière numérique, elle a vraiment été créée pour ça, à la fois être un pôle d'animation pour le village et aussi un pôle d'activité économique.
Merci, c'est intéressant et c'est vrai que c'est bien de rappeler que le village de Lourmarin, comme tant d'autres en région, est soumis à un rythme de saisonnalité. Il y a la saison estivale avec les touristes, alors ça commence un peu avant l'été, ça se termine un peu après. Et puis, il y a une grande séquence de calme, en fait, qui arrive avec le départ des touristes.
Oui.
Le village est tout petit, vous l'avez rappelé, Pauline. Donc, il y a deux questions concernant et la taille du village et ses habitants et l'implantation de la fruitière. La première question, ça concerne plutôt les ressources. Que viennent chercher, vous avez évoqué le marché de production local. Disons que c'est une ressource élémentaire, d'hyper-proximité, très utile. Je pense que vous avez agrégé au fur et à mesure du développement de la fruitière des ressources supplémentaires, puisque vous avez agrandi le local. Et aussi, une autre question, c'est s'il y a eu des activités supplémentaires avec un agrandissement de l'équipement, ça veut dire que peut-être les usagers sont plus nombreux et peut-être rayonnent-ils au-delà même du village de Lourmarin?
Oui, effectivement. Alors pour répondre à la question des services, En fait, ben, comme je vous ai dit tout à l'heure, les tiers-lieux, notamment en milieu rural, ne peuvent pas être ultra spécialisés. Donc, on a vraiment composé une offre de services basée sur les besoins et une étude, en fait, de la population du village, mais aussi du territoire, bien évidemment, alentour. Donc, on a effectivement ce marché de producteurs qui a notamment été très utile pendant les périodes de confinement que nous avons connues ultérieurement. Il y a effectivement un espace de coworking parce qu'on s'est rendu compte que à Lourmarin et dans les territoires et dans les villages limitrophes, il y avait énormément d'indépendants et une offre finalement assez rare d'espaces commerciaux ou de bureaux pour pouvoir permettre à ces gens-là de travailler en dehors de leur habitation. Donc un espace de coworking, ça nous est apparu vraiment évident dès le démarrage du projet. On a aussi implanté un laboratoire de fabrication numérique, donc avec des machines pilotées par informatique, avec une équipe qui a vraiment un savoir-faire et des compétences techniques très pointues. Donc c'est un laboratoire de fabrication numérique qui attire en dehors de Lourmarin. Voilà, très récemment, on a eu une personne de Manosque qui est venue jusqu'à la Fruitière pour pouvoir fabriquer une pièce pour un ami à lui. Donc on a plutôt un rayonnement régional, voire au-delà, puisqu'on travaille aussi avec des laboratoires de recherche qui sont plutôt sur la région Occitanie, voire sur toute la France pour certains projets. Ensuite, on a un cyberespace. Il faut savoir qu'à Lourmarin, on n'a pas encore la fibre. On l'attend avec impatience d'ici quelques mois maintenant. Mais voilà, il n'y a pas la fibre partout. Donc des gens qui ont de la difficulté aussi à avoir Internet à leur domicile. Donc on propose ce service de connexion. Et on y a adossé aussi tout un service lié au dépannage informatique et à l'aide à l'utilisation des outils informatiques. Donc ça prend la forme plutôt d'ateliers tous les mardis matins. Bon là en ce moment ils sont en pause malheureusement. Et aussi sous la forme de rendez-vous individuels. Donc les gens viennent, ils ont un problème, un tableur Excel à faire et qu'ils ne savent pas par où commencer ou un nouveau téléphone portable dont ils ne savent pas se servir. Donc c'est un service qui est très prisé et qui a lui par contre une emprise vraiment plutôt très locale. On va dire que les utilisateurs de ce service, ils sont dans un périmètre de 5 km autour de Lourmarin. Et ensuite on a dans ce lieu-là, comme je vous ai dit, c'est un lieu qui est assez grand, on a des grands espaces. Donc on a proposé toute une gamme autour de l'événementiel. À la fois de l'événementiel plutôt type tourisme d'affaires. Donc on fait venir des entreprises à Lourmarin pour faire des séminaires. Donc ça a un impact très important pour la question de la saisonnalité dont on parlait tout à l'heure. Et un volet autour de l'événementiel plutôt culturel. On accueille à la Fruitière numérique des résidences artistiques. On est en train d'essayer de démarrer une programmation culturelle. On a des expositions, des conférences. Donc voilà, ça c'est un peu toute l'offre de services et en fonction de chaque service, on voit qu'on a un périmètre d'implantation en fait qui est plus ou moins étendu.
Merci, c'est très dense. Donc je réfléchis parce que c'est tellement dense. Il y a beaucoup de questions qui me viennent à l'esprit évidemment. Alors tout à l'heure, vous parliez de collaboration avec des labos de recherche. Mm-hmm. Et là, juste, c'est une parenthèse, j'ai du mal à comprendre. Comment des labos de recherche, c'est pas pour vous faire injure, mais peuvent s'intéresser à une structure qui est somme toute petite et implantée dans un village de 1000 habitants. Ils font quoi, les labos de recherche?
Alors, le dernier laboratoire de recherche avec lequel on a travaillé là très récemment, c'est l'IRD. En fait, ce qu'ils viennent chercher chez nous, c'est une façon de penser un petit peu différente. Le projet innovateur, comme on a pu le dire, bon, plus maintenant, puisqu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de tiers-lieux qui sont en train de s'implanter et en milieu urbain et rural. Mais à l'époque, quand on s'est lancé, bah voilà, c'était très nouveau et ils venaient chercher ce petit supplément d'âme, en fait, cette différence qu'on pouvait avoir avec peut-être des bureaux d'études. Donc, on a une équipe qui est formée, qui va intervenir plutôt sur de la conception. Donc, c'est-à-dire qu'on va réfléchir sur le projet en apportant, nous, notre angle de compétences qui est certes un petit peu restreint par les machines qu'on peut avoir, mais tout aussi légitime parce que différent en fait de ce que les laboratoires de recherche peuvent connaître. Je vous donne un exemple, on a travaillé et on travaille toujours, donc depuis notre création, on travaille avec le CIRAD. Le CIRAD, c'est un laboratoire de recherche qui travaille sur les problématiques de conflits, notamment hommes-faune en Afrique. Et ils avaient mis au point un prototype d'un répulsif pour les éléphants. Donc c'était comme un, on va dire, un pistolet qu'on chargeait avec une boule de ping-pong qui était injectée d'huile pimentée. Et on tirait à bout portant sur les éléphants avec ce pistolet. Et ils ont fait ce prototype-là avec une école d'ingé. Et en fait, ils se sont aperçus que ben, le prototype était plus ou moins fonctionnel, mais par contre, ils n'avaient pas, l'école d'ingé n'avait pas du tout pensé que ce projet s'intégrait dans un environnement qui n'était pas l'environnement que eux connaissaient. Et donc, en milieu de savane ou de brousse, en tout cas, les éléments dont était fait ce prototype, ben, on ne pouvait pas les trouver. Donc du coup, ils sont venus nous chercher pour pouvoir créer un prototype qui était plutôt low-tech, ce qu'on appelle, donc avec du matériel, pas de recyclage, mais en tout cas de la petite visserie, du bois local, pour pouvoir refaire ce prototype, mais le penser, en fait, différemment.
Ouais, merci, j'ai voyagé l'espace de quelques secondes, Pauline. mais en fait, c'est quasiment du design, je veux dire, là, on est très très loin du marché local, paysan, c'est du design d'idées, en fait, c'est comme si c'était
clairement,
un bureau
oui.
de design d'idées. C'est intéressant parce qu'en fait, on perçoit très bien que les activités de la fruitière sont variées, très, très, très diverses. C'est de la polyactivité au sens le plus plein du terme. J'ai une question concernant la fréquentation quand même parce que le village et vous disiez qu'il était un peu vieillissant en début d'entretien. Je me pose la question sur la fréquentation d'un lieu high-tech. Il y a beaucoup de jeunes, il y a des actifs, des auto-entrepreneurs. Est-ce que c'est véritablement un lieu de mixité sociale?
Ben oui, parce qu'en fait, comme je vous disais, chaque service va avoir son public et c'est ça qui est très drôle. Je parlais tout à l'heure des ateliers informatiques que je donne le mardi matin. C'est principalement des personnes âgées qui viennent à cet atelier, donc ils ont plus de 60 ans. Et en même temps, ben, quand ils viennent, ils croisent les indépendants qui travaillent au coworking, voire mes artistes qui sont en résidence. Et l'intérêt du tiers-lieu, c'est qu'ils sont comme chez eux, donc ils vont pas venir me voir pour me demander l'autorisation d'aller voir les artistes en résidence travailler ou d'aller voir ce qui se passe dans le lieu, en fait. Ils vont prendre ce droit-là naturellement. Donc c'est vraiment, ça c'est important pour nous et on le répète vraiment à chaque intervention. Enfin, la fruitière numérique est un lieu ouvert pour tous, peu importe le profil des personnes. Et encore une fois, on fait des ateliers au lab aussi sur de la fabrication d'objets. On appelle ça les ateliers PIMP. En fait, on vient personnaliser des objets de notre quotidien. Ben, il n'est pas rare de voir des personnes âgées, voire des tout jeunes qui viennent à ces ateliers. Et on fait ces ateliers tous ensemble. Il n'y a pas de différence d'âge. Donc vraiment, oui, c'est un bel outil pour la mixité sociale et intergénérationnelle.
Merci Pauline. Toute petite question technique, il n'y a pas de crèche à la fruitière numérique.
Non,
il n'y a pas
non,
de
non.
Service de crèche ou de service à la petite enfance intégrée.
Non.
J'ai une question concernant l'interaction qu'il peut y avoir. Vous avez évoqué les activités culturelles de résidence, il faudra qu'on y revienne rapidement.
Oui.
Les activités culturelles de la fruitière sont-elles complémentaires, parce qu'on voit que c'est très mixte, donc en fait ça attire énormément de public, parce qu'il y a aussi beaucoup de ressources. Comment se fait la cohabitation avec des lieux culturels plus classiques qui sont implantés dans la ville de Lourmarin? Je pense par exemple à une médiathèque. Est-ce que finalement vous siphonnez pas la fréquentation des lieux un peu plus classiques et implantés dans le village?
Alors non, parce que justement, et ça c'est tout l'intérêt aussi du projet, il a vraiment été pensé pour pas entrer en concurrence avec les acteurs qui étaient déjà implantés à l'époque où le projet a démarré, mais de vraiment travailler en complémentarité. Donc par exemple, la médiathèque en ce moment a développé tout un volet sur le numérique, et du coup on est en train de travailler avec eux sur un projet de partenariat sur l'accompagnement à l'utilisation du numérique pour les usagers de la médiathèque. Pareil, à l'école de Lourmarin, nous avons une école de musique. Alors eux, ils n'ont pas besoin de nos compétences. En revanche, on a des espaces qui peuvent être tout à fait en mesure d'accueillir, par exemple, le spectacle de fin d'année de l'école de musique, plutôt que d'être dans une salle communale qui n'est pas insonorisée ni équipée pour ce type de travail. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va leur proposer. Donc on travaille vraiment en complémentarité. Là, très récemment, il y a le château de Lourmarin qui nous a demandé de travailler sur un projet de conservation. Ils ont une fontaine à l'extérieur du château qui a été détériorée et vandalisée. Et il y a des médaillons en bronze qui ont été volés. Et on a des photos de ces médaillons, donc on est en train de travailler avec le château pour pouvoir retravailler et reproduire ces médaillons, très certainement dans un autre matériel. Mais en tout cas, on travaille avec le château. Donc l'idée, c'est vraiment pas d'entrer en concurrence, mais d'être complémentaire, voire force de proposition avec ces acteurs culturels déjà implantés sur la commune.
Merci, je suis entièrement rassuré. Mais mais c'est très intéressant. Donc, si je comprends bien, il y a une vraie auto-simulation et coopération avec entre les différents équipements municipaux.
Oui.
Cependant, ce que j'étais en train de réfléchir à l'aspect, c'est ça qui me turlupine depuis le début de notre échange. Il y a l'aspect technique. Il y a quand même un aspect technique qui est très prononcé avec des machines diverses.
Oui.
Mais assez sophistiqué, il y a un moment donné, il y a peut-être un risque d'obsolescence pour la fruitière avec le vieillissement de ses ressources techniques et matérielles. La fruitière, c'est pas une multinationale, une grosse entreprise.
Non.
Comment faites-vous pour rester à la fois proche du public et en proposant, en continuant à proposer des services relativement pointu?
Bah, c'est beaucoup de formation, en tout cas sur la partie technique, c'est beaucoup de formation, beaucoup de veille aussi pour pouvoir, pourquoi pas, acheter du nouveau matériel. En fait, pour le moment, les machines qu'on a achetées il y a 5 ans, elles sont toujours d'actualité. On peut toujours travailler avec pour accompagner les projets. Donc, il n'y a pas encore d'obsolescence. Les lieux qui se créent comme le nôtre aujourd'hui ont la même gamme de machines que nous. Après, ce qui va faire la différence, c'est vraiment le savoir-faire des personnes qui vont utiliser ces machines. Et du coup, ben ça, c'est de la formation, en fait, vraiment quotidienne sur ces outils-là, trouver des nouveaux logiciels pour nous permettre d'aller toujours plus loin. Donc, c'est aussi l'intérêt d'avoir un lieu très ouvert et très divers. Ça nous amène à travailler sur tout un tas de projets divers et variés. On fait à la fois du design, on fait de la réparation. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut faire aussi de la conservation avec les musées. Donc, chaque projet va nécessiter une mise en place de compétences, de savoir-faire, voire des besoins techniques très divers. Et donc, on va venir piocher dans notre savoir pour pouvoir accompagner ces projets-là. Et quand on ne sait pas faire, la fruitière numérique est un tiers-lieu. Nous, depuis notre création, tout un réseau de partenaires avec lesquels on sait qu'on peut travailler. Et du coup, on va réorienter les gens dont on sait qu'on ne peut pas, ou on n'a pas les compétences ni le matériel pour pouvoir les accompagner. On va les réorienter vers ces partenaires-là en travaillant toujours en local, en réseau ultra local, pour permettre au territoire de se développer. Et ça fait sens par rapport à l'idée initiale du projet.
Combien y a-t-il de salariés à la fruitière?
Nous sommes trois.
Trois. Et vous avez des chiffres de... C'est un peu méchant de ma part peut-être, mais il y a des chiffres de fréquentation sur la fruitière.
Oui,
vous savez combien de personnes viennent bénéficier des ressources?
Alors en 2019, on a comptabilisé environ 13 000 visiteurs sur l'année, donc ce qui est pas rien pour un petit village de 1 000 habitants. Donc on entend par visiteurs, c'est à la fois des gens qui sont venus fréquenter le cyberespace, qui sont venus au coworking, ou qui sont venus à des événements. Donc dans ces 13 000 visiteurs, on ne compte même pas toutes les délégations, parce qu'on fait beaucoup, beaucoup de visites à la fruitière auprès d'élus. Donc on ne rentre pas ces visiteurs-là, et certainement qu'on en oublie. Mais c'est une moyenne sur l'année 2019. On va oublier 2020, qui fait clairement baisser notre chiffre. Mais voilà, non, on est très fiers de pouvoir accueillir tous ces gens sur la fruitière et sur le village, bien évidemment, parce que c'est aussi beaucoup le village qu'on met en avant. Et comme je vous disais tout à l'heure en début d'interview, ce projet a été conçu pour être un pôle d'attractivité aussi pour le village. Donc, je pense que ce chiffre parle de lui-même.
Oui, c'est vrai que c'est remarquable. C'est un rapport de 1 à 13. C'est absolument remarquable. Merci, Pauline. J'ai une dernière question. Il y aurait tout un tas d'autres questions à poser, mais il faut qu'on s'arrête. Il y a une labellisation de tiers-lieu. Je crois que vous êtes vous-même labellisé tiers-lieu. Je vous entends un peu, et c'est formidable, c'est passionnant, raconter cette histoire qui est formidable. Hein. C'est très étonnant,
oui.
et c'est passionnant à écouter. L'État a commencé à labelliser les tiers-lieux. Est-ce qu'il n'y a pas un risque avec ces labellisations d'édulcoration des projets et puis de, disons, de officialisation de leur activité et aseptisation de leur activité? Puisqu'au départ, les tiers-lieux ont émergé, alors vous l'avez rappelé en début d'émission, il y a une volonté locale de sauver des équipements, des services, reprise par, il y a quand même une personne, un élu ou un groupe d'élus qui décide qu'il faut mettre des moyens. Mais alors après, la labellisation, on rentre dans quelque chose de plus officiel. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire?
Alors, je dirais oui et non. En fait, c'est, à mon sens, c'est pas parce qu'un tiers-lieu n'est pas labellisé qu'il cesse d'exister. Je vous donne un exemple. Sur les Fab Labs, il y a un label, le label Fab Lab, en fait. Et on a ce label que si l'on est signataire de la charte du MIT. Le MIT, c'est l'organisme qui a créé en fait le concept de Fab Lab aux États-Unis. Et donc cette charte, lorsqu'on la signe, on s'engage à tout un tas de choses. Et il y a même des choses qui sont assez obligatoires, comme la liste du matériel que vous devez avoir proposé dans votre Fab Lab. Et nous, dès le début, cette charte, elle nous correspondait pas. Donc on a fait le choix de ne pas la signer. Et donc, très rapidement, en fait, on a pris notre propre terme. On a décidé qu'on n'était pas vraiment un Fab Lab, mais qu'on était plutôt un lab. Comme ça, on se mettait d'accord. On n'utilisait pas la marque plus ou moins déposée du MIT. Mais donc, on n'a pas été labellisé sur ce côté Fab Lab. Pour autant, on continue d'exister et on fait le travail d'un Fab Lab. On a un fonctionnement assez hybride puisqu'on a ce volet très Fab Lab où on fait de l'accompagnement ouvert, open source, etc. et de la formation. Mais on a aussi un autre volet qui est plus sur de la prestation avec des entreprises. Donc pour moi, le fait qu'on ne soit pas labellisé, ça ne veut pas dire que le tiers-lieu cesse d'exister. Après, la question, elle est très légitime parce qu'on sait que les tiers-lieux, ce sont vraiment des lieux très divers puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils répondent avant tout à des besoins locaux. Donc un tiers-lieu à Lourmarin ne sera certainement pas du tout le même qu'un tiers-lieu à Eure ou un tiers-lieu à Paris. Donc voilà. Je pense qu'il n'y a pas nécessairement de risque. Après, c'est vrai que l'appel à manifestation d'intérêt qui est sorti en 2017 par le gouvernement, je pense quand même qu'ils ont pris en compte cette spécificité des tiers-lieux, à savoir ce côté assez hybride et protéiforme. Et donc, j'espère que effectivement, les tiers-lieux qui ne sont pas labellisés officiellement, en fait, continueront d'exister et de porter leurs valeurs et leurs projets sur leur territoire.
Merci Pauline. L'émission touche à sa fin malheureusement. Alors moi je suis très heureux d'avoir eu l'entretien et l'échange avec vous parce que j'ai appris énormément de choses. J'en connaissais peu, faut dire, mais j'ai appris beaucoup de choses. Je vous remercie. Je rappelle à nos auditeurs et auditrices que vous êtes directrice de la Fruitière numérique. Donc ce tiers-lieu se situe à Lourmarin, un petit village de 1000 habitants à peine, dans
Oui.
le haut ou le sud Vaucluse. Donc, merci beaucoup, Pauline. Et chers auditeurs, j'espère que vous avez
Merci à
pu
vous.
profiter de cette émission. Vous pouvez réécouter cette émission, d'ailleurs, si ça vous a passionné, sur le site radio.cnfpt.fr. Merci encore.
Merci à vous.
La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.